ardemment Dieu et sa présence. Qu'est-ce que j'étais prêt à faire et à ne plus faire? Vous connaissez ce psaume, on l'a mis et on l'a chanté, et je le chantais, moi je me rappelle quand j'étais jeune converti, dans les ailes de la foi, le psaume 42. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Dieu. Waouh! Suis-je dans cette situation? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je? Quand paraîtrai-je devant sa face? Avoir faim et soif de Dieu. On est des êtres humains. Nous mangeons tous les jours, nous buvons tous les jours. Si je vous invite un soir à dîner à la maison et que vous arrivez et que vous dites « mais j'ai pas faim », il y a plusieurs hypothèses. Soit que vous êtes en jeûne, mais bon, très bien. Soit que vous êtes en indigestion et que vous avez ça pas arrivé. Soit que vous avez déjà mangé. Ce qui est vrai pour notre corps est vrai aussi pour notre esprit, pour notre âme. Peut-être, et c'est la question que je me suis posée avec Dieu, c'est si Dieu veut que je renforce ma faim, c'est peut-être parce que je vais manger ailleurs que dans les bras de Dieu. Nous sommes dans une société, je ne sais même plus comment on doit la déterminer, la nôtre, et dans notre société, dans notre moderne, contemporaine, française, on se gave de nourriture, d'images terrestres, de sensations émotionnelles. Le monde a faim tous les jours. Et tous les jours, il mange. Mais les hommes et les femmes ont toujours faim. Chaque année, chaque mois, chaque jour, c'est-à-dire chaque heure, chaque seconde, à la vitesse où va l'Internet et la radio, on nous propose de nouvelles nourritures, des nouveaux mets, des nouvelles recettes, des nouveaux programmes. Mais on a toujours faim. Les hommes et les femmes sont prêts à n'importe quoi et font n'importe quoi pour se rassasier, mais en vain. La famine est toujours là. Famine émotionnelle, affective, spirituelle. Et ces nourritures et ces fausses nourritures n'ont fait que gaver et gâter les dents, abîmer les estomacs, les tubes digestifs, créant le désordre, le chaos dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. C'est vrai dans notre corps, on pourrait parler de la nature des aliments qu'on mange aujourd'hui, comment, y compris les allergies, tout ça, on se demande qu'est-ce qu'on mange, quelle nourriture on nous fait avaler. C'est vrai pour notre corps et les aliments naturels, entre guillemets, parce qu'ils sont de moins en moins naturels. Et c'est vrai aussi pour l'alimentation spirituelle ou morale. Parmi tous les hommes et toutes les femmes de toutes les nations, de toutes les origines, de toutes les religions, cette faim de vérité, de nourriture spirituelle existe aujourd'hui et grandit, n'a jamais été aussi importante et aussi forte. Et c'est aussi vrai, et c'est une bonne chose dans le christianisme. Mais, et sans être trop critique, des fois, je pense que l'Église a été un peu trop envahie par l'esprit du monde. Être adapté, oui. Se conformer, non. Et que l'hyperconsommation a envahi l'Église. Sans que la faim du peuple de Dieu soit apaisée. Nous manquons ni de conférences, ni de programmes pour nous enseigner. Et ces programmes sont tous excellents. Mais des fois, j'ai la crainte, le mot des fois n'est pas utile, de voir se développer dans le monde chrétien, je ne parle pas de notre église en particulier, je parle de toutes les églises, et de toutes les églises occidentales, mais je crois que c'est général et mondial, de ce que j'entends et de ce que j'écoute, les mêmes travers que dans le monde séculier. Nouveaux programmes, nouvelles recettes, nouveaux mets, nouveaux régimes alimentaires. Il y a une phrase de Wesley, qui n'est pas tout jeune, elle est là, qui est est intéressante et qui m'a fait, quand je l'ai lue, m'a sauté aux yeux. L'orthodoxie, c'est-à-dire même un bon enseignement, et tous les programmes qu'on entend, qu'on écoute, et on encourage, et on part en parler, sont tous excellents. Et ce qui est enseigné est excellent. Ce qui est appris est excellent. Mais ce qui est écrit là derrière, en deux mots, c'est dire connaître, savoir, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et les provocateurs, Wesley, hein, c'était un petit rigolo, ils disaient, waouh, il y a quelqu'un qui connaît très bien Dieu, mieux que nous le connaissons, c'est Satan. Mais pour ça, il n'adore pas Dieu, il le hait. Et je crois pour notre assemblée particulièrement, mais pour le peuple de Dieu, que nous sommes appelés à une autre nouvelle, un nouveau temps, une nouvelle saison. Ces mots, et on parle souvent avec Norbert, c'est des mots que Norbert a reçus, que j'ai reçus, on a reçu des morceaux. Norbert disait, j'ai reçu une nouvelle saison, moi j'ai dit l'intimité avec Dieu. Mais nous sommes profondément convaincus que le Seigneur veut aller beaucoup plus loin. Vous savez, c'est fait penser à Job qui disait, j'avais entendu parler de toi, mais je ne t'avais pas vu. Et Dieu nous appelle à le voir ce matin et ces jours-ci. Maintenant. On ne parle pas dans 6 mois. Hein. Maintenant. Je pourrais parler de maintenant, mais c'est un autre sujet. Le peuple de Dieu a faim. Et je suis, pourrais dire, mais c'est désespérant. Non. C'est encourageant. Parce que moi, je ne vois pas cela comme une difficulté, mais comme un encouragement, comme pouvait faire Élie lorsqu'il voyait un seul petit nuage dans un ciel tout bleu. Est-ce qu'il y avait la famine sur Israël? Et il savait que c'était le temps de Dieu. Et je vous encourage à regarder ce nuage. Et en tout cas, j'aimerais ce matin vous communiquer la foi que j'ai que ce nuage est là. Il est petit, mais ce nuage est là. Il est au-dessus de notre tête. Il est au-dessus de cette assemblée. L'Église est prête. Je sors d'une pastorale. Impressionnant, comment compris dans les... Alors ça fait vieux maintenant que je dis ça, mais bon, je l'assume. Les nouvelles générations, les nouveaux responsables, les nouveaux leaders qui se lèvent. On a accueilli ici, on en a vu à Montpellier, on a vu ailleurs. J'en ai vu beaucoup ce week-end. Jamais, je vous le dis, et croyez-moi, et j'ai une certaine expérience accumulée, inconvénient, j'ai vu des leaders, des responsables et une église aussi prête que maintenant. Jamais. Jamais. La croissance spirituelle, théologique qu'a fait l'église en 40 ou 50 ans est impressionnante. On pourrait prendre beaucoup de sujets. Peut-être un des essentiels, Israël. Compréhension du rapport entre l'Église et Israël. Vous n'avez pas idée de ce que c'était il y a 40 ans, 50 ans. Jamais la compréhension du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, n'a été aussi compris, bien enseigné que maintenant. Sur beaucoup de sujets. L'Église est prête. Mais, est-ce qu'on doit se satisfaire d'une église prête? Ça me fait penser, je ne pense pas qu'à notre assemblée, même si notre assemblée aussi a participé, a travaillé, à des hommes et des femmes qui ont construit l'autel de Dieu, de l'adoration. On a mis les bonnes pierres, les fondements bibliques, on a ajouté le bois, on l'a bien taillé, bien arrangé, on a fait une adoration. Enfin, vous voyez, j'imagine qu'on voyait un autel dans l'Ancien Testament, on a mis tout le bois. Le gros bois dessous, le petit bois par-dessus, les brindilles, tout est prêt. Non, c'est au-dessus, mais pardon. Oui, en dessous et au-dessus, c'est vrai. Mais bon. Mais enfin, en tout cas, j'ai appris, parce que je fais le feu chez moi tous les matins, et j'essaye d'apprendre ça à mes enfants, que ce n'est pas suffisant de mettre un peu de bois, etc. Et si vous soufflez, si votre bûcher n'est pas bien organisé, ça ne marchera pas. Vous pourrez souffler comme des malades, sans un bon bûcher, ça ne prendra jamais. Hein? Vous aurez dépensé vos brindilles, et ça se prend à monter un bûcher. Et l'Église a appris beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est suffisant? Si l'Esprit du Christ n'est pas au centre, et allume pas, et consume ce bûcher. Et j'ai vu, si, et ça faisait penser à un verset dans la Bible, mais comme si nous étions tous assis autour de notre bûcher, on est content, mais qu'on se contentait de chanter, d'être autour. Ça serait dommage qu'on adore le bûcher et pas Dieu. Qu'on adore, qu'on se félicite de nos programmes et pas de Dieu. Qu'on se félicite de nos enseignements, alors que je travaille encore, mais bon, et pas Dieu. J'ai hâte, personnellement, j'ai hâte pour nous, Assemblée chrétienne de Nîmes, de goûter la douceur pénétrante de Dieu. Ces temps-ci. Je crois que c'est le temps pour nous de rentrer dans une nouvelle relation, une nouvelle connaissance personnelle avec Dieu. Dans cette intimité. Personne ne vient à un Seigneur si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est le Seigneur qui nous donne faim et soif et qui m'a donné faim et soif pendant cet été. Qui a mis ce désir, qui met ce désir dans mon cœur, dans notre cœur, de rechercher Dieu. Nous le recherchons tous. Nous sommes tous appelés de rechercher de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, le Seigneur. Oui, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêcherait aujourd'hui d'aller plus loin? Quelles sont peut-être les choses que Dieu veut que je change? Que j'ai pas compris ou que j'ai mal compris. Alors, j'ai pas la vocation de tout dire ce matin, mais j'ai repéré, et puis on va continuer, on a parlé entre responsables, et qu'on va continuer sur ce thème pendant plusieurs semaines, y compris en partageant chacun notre expérience. Donc, je vous ai apporté deux points que je vais laisser méditer, qui ont peut-être nous a pas permis d'entrer plus loin dans cette adoration. La première, c'est une mauvaise interprétation de la grâce. Voilà. J'y avance avec mesure, parce que vous savez combien notre Église, et des fois quand j'entendais, y compris d'autres assemblées chrétiennes, donner la définition d'assemblée, mais nous sommes une Église fondée sur la grâce. Amen. On n'enlève pas un mot de ça. C'est le fondement de notre doctrine. Et j'espère pas que l'Assemblée chrétienne de Nîmes, ça serait inquiétant. Ça serait vraiment inquiétant, mais c'est vraiment pas le cas. C'est la justification par la foi. Nous sommes sauvés par l'œuvre merveilleuse du Christ à la croix. C'est la pierre angulaire de ma foi. Mon salut a été donné gratuitement, sans qu'aucune manière j'ai pu intervenir dans un sens ou dans un autre. Ni mes bonnes actions, ni mes mauvaises actions. Non compté dans le choix du Seigneur à mon égard. Seule sa seule souveraineté, son parfait en amour à mon égard, est la source de mon salut. Amen, dit le peuple. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Mais la question que je me suis posée, et ça fait longtemps que le Seigneur me travaille sur ce point-là, et parce que peut-être au niveau de mon caractère, j'avais beaucoup à changer sur ce point-là. Est-ce que cette grâce doit me laisser passif après? Quel est ensuite ce qui se passe? N'avons pas nous mal interprété la grâce, pris au piège d'une logique pacifique qui insiste sur le fait que nous avons été trouvés par Dieu et que nous n'avons plus besoin de le chercher? C'est vrai, si j'ai été trouvé par Dieu, est-ce que j'ai encore besoin de le chercher? Vous comprenez le... Et Dieu a été me chercher, a été te chercher, Stéphane. Donc j'ai été trouvé. Et pourtant, Dieu m'appelle à le chercher tous les jours. Notre situation à ce sujet, je vais prendre un exemple qui n'existe pas, Ce serait celui d'une femme qui verrait son mari ne jamais le regarder, ne jamais lui parler, ne jamais dire son amour pour elle, vivant dans une pièce isolée près de son ordinateur. Non, j'arrête. Bien sûr, c'est un faux exemple, ça n'existe jamais. Mais c'est un peu comme ça qu'on se comporte avec Dieu. On l'a trouvé, mais on ne vit pas dans la même pièce. On sait qu'il est avec nous. On sait qu'il nous aime, mais on n'est pas avec lui. Je parle pour moi. Avoir été trouvé de Dieu ne nous empêche pas de le chercher de tout notre cœur, de toute notre force, d'être violent. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut conquérir notre grâce de Dieu ? Non. Mais rechercher d'une manière folle et absolue Dieu, oui. Première interprétation, on pourra en revenir, et je suis sûr que mes collègues reviendront peut-être sur ce point parce qu'il est assez important. Le deuxième point, là aussi, il me fait beaucoup de peine parce que là aussi on a, et en tant que pasteur, je vois les dégâts de cette pensée, c'est sortir de l'amour conditionnel. Un autre empêchement est notre mauvaise compréhension, notre compréhension pécheresse, pour être très concret, de l'amour. Je suis même blessé quand je dis, mais la base, c'est l'amour, quand j'entends, ah oui, mais d'accord, mais ça, on sait, donne-moi des choses plus solides. Qu'est-ce qui pouvait être plus solide qu'aimer ? Qu'est-ce qui peut être plus solide que l'amour ? Que savons-nous d'aimer et de l'amour en réalité ? Notre amour est beaucoup trop conditionnel parce que nous sommes pécheurs. On croit qu'on sait aimer, mais on ne sait pas aimer, mes amis. Je ne sais pas aimer. En tout cas, pas comme Dieu aime. Et ça, ça nous a amené à autre chose. C'est Dieu est bon et. Je recherche Dieu et je serai guéri. Prie et tu seras guéri. Prie et ton couple sera sauvé. Prie et tu auras une vie formidable. Prie et ceci. Prie et Dieu est. On a conditionnalisé notre relation à Dieu à des résultats. J'ai quelques exemples sur ce point. Il y en a un, c'était la semaine, il y a deux jours, il y a une personne qui m'a appelé par ami interposé. Et cette personne, son couple est en train d'exploser. C'est pas un chrétien, et son couple est en train d'exploser. Sa femme est partie, etc. Puis en même temps, il est touché, et puis il a rencontré le Seigneur. Quelqu'un lui a parlé du Seigneur, qui m'a donné ses coordonnées, etc. Voilà, il est en. Voilà. Sa femme l'a quitté, du jour au lendemain. C'est terrible. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Il avait beaucoup de. Je lui ai pas dit, crois en Dieu, et ta femme reviendra. Et ton couple va être restauré. J'en sais rien d'abord. Article 1. Puis c'est peut-être pas le sujet. Excusez-moi de vous dire. Je souhaite bien sûr que son couple soit restauré. Mais conditionnaliser sa relation à Dieu avec une situation, c'est catastrophique. Après, je lui ai parlé, il m'a dit, j'avais beaucoup de questions, mais ce qu'on m'avait dit, j'ai plus de questions. Bon, merci. Parce que je ne suis pas rentré dans ce choix, je lui ai pas dit, mais voilà, qu'est-ce que c'était de rencontrer Dieu et de connaître Dieu et comment ça pouvait tout changer. Dans Espoir Plus ou dans les parcours que je peux faire, des gens qui viennent me voir en disant, mais je veux faire ceci ou je veux être parce que je veux changer. Je veux être guéri, je veux être restauré. J'en peux plus. Amen. Mais aime Dieu. Sans condition. Bien sûr que tu veux vous guérir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais conditionner notre relation à Dieu à ce que Dieu fait pour nous est tellement réducteur de qui est Dieu. On a chanté plusieurs chants ce matin, et c'était intéressant. Et on a chanté deux chants l'un et l'autre, et ils étaient tous les deux vrais. Mais il y avait deux natures, et puis Olivier, que je connais tellement bien, a bien senti ça. Il y avait le premier chant, c'était Dieu est bon pour moi. C'est vrai. Et on a besoin d'être dans la reconnaissance et la louange. Et là, on était dans un chant de reconnaissance et de louange. Puis après, on a chanté un autre chant. Je louerai l'Éternel. Et personnellement, moi, j'ai senti qu'une onction était particulière après. Parce que là, on n'était plus dans la reconnaissance. On n'était plus vis-à-vis de Dieu avec moi-même. Mais on disait simplement, Dieu, tu es. Et là, il y a une différence. Vous voyez la différence ? Entre reconnaître, remercier Dieu et l'adorer gratuitement, sans savoir quoi que ce soit. Et là, on a dit, et voilà. Et après, le dernier chant, je prends ça, mais c'est... Parce que tout se tient, et le dernier chant, le nouveau chant, mais on va l'apprendre, la prochaine fois, on aura le texte. Il était magnifique aussi. Le nouveau chant. Mais je louerai l'Éternel pour lui-même, et pas pour ce qu'il me donne. Dieu nous aime inconditionnellement et nous sommes appelés à l'aimer pour lui-même et non pour ce qu'il va nous donner. C'est des choses que j'ai apprises, je dirais, douloureusement dans ma vie. Et donc c'est avec cette situation où des fois Dieu, mais je suis encore conscient que régulièrement je dois me repentir et que nous sommes appelés et que vous êtes appelés, nous sommes appelés ce matin à nous repentir. D'avoir une relation avec lui qui était conditionnelle et non pas inconditionnelle. Recherchons sa gloire pour lui et non pour les manifestations de sa gloire, là aussi. Recherchons Dieu pour lui-même et non pour rien, et rien d'autre. Nous avons fait des fois, c'est un peu l'humour, mais on récite un peu notre Père à l'envers. On commence par la fin, on termine par le début. Notre Père commence par le début. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après, on parle de nos besoins. Mais commence par le début. Et je vous appelle que ce matin, on apprenne à réciter le Notre Père. Enfin, vous le récitez, peu importe. Mais en tout cas, dans le bon sens. Et vous verrez que notre vie personnelle et collective va profondément changer si on le récite, le Notre Père, à l'endroit. Pourquoi ? Parce que c'est, là, on n'est pas une question de recette ou de programme. Je ne suis pas en train de vous amener un truc particulier. Mais on est au cœur de quelque chose de plus important. C'est la nature de Dieu et la nature de l'homme. L'homme, Dieu, est amour. Nous avons été créés à son image. Et l'homme est amour. Nous sommes des êtres d'amour. Et ce qui est la profondément raison de la nature, de la relation entre l'homme et Dieu, c'est l'amour. J'étais dans un pastoral et il y avait un enseignant qui disait, mais vous êtes, alors c'est bien, il faut souvent dire ça des pasteurs, c'est très important, et il en a rajouté qu'ils étaient des serviteurs inutiles. Ça, c'est très important de redire ça des pasteurs. Ils ont du mal des fois. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et c'est super. Donc pourquoi j'ai été créé? Pourquoi Dieu veut une relation avec moi? Parce qu'il veut un vis-à-vis, parce que Dieu est en manque, si j'ose dire. D'amour, vraiment. Il a besoin d'amour, il est en recherche, il a besoin de vis-à-vis d'amour. Il a besoin d'être en relation amoureuse avec vous. C'est un vis-à-vis. C'est une relation vivante, permanente, amicale, pas seulement dans mon temps de prière, mais dans toute ma journée. Une relation de personne à personne. Toujours un pastoral, on oublie trop souvent que travailler, c'est adorer Dieu, que c'est la même racine en hébreu. Que toute chose dans ce que je fais n'est fait que pour aimer Dieu. Je vais prendre un exemple. Alors je sais qu'il ne va pas être content, mais j'ai pensé à ça. Je pense à Norbert. Est-ce que vous avez vu la beauté des diapos et des dessins et tout ça que vous avez là? Vous l'avez vu ou pas? C'est magnifique. Est-ce que Norbert Garcia a comme profession d'être directeur de publicité, de communication, ou est-ce qu'il a fait de l'infographisme? Il était infirmier. Enfin, je veux dire, une formation importante, infirmier. Et vous connaissez aussi le ministère, et ça, je n'ai pas de doute, d'enseignant de Norbert. Alors, il aurait pu dire, écoutez, débrouillez-vous, mais ce n'est pas mon mal appel, ce n'est pas mon ministère, c'est pas, je ne suis pas infographiste, je n'ai pas de talent. Il n'a pas fait comme ça. Il a essayé de bien faire, de faire le mieux possible, d'être excellent. Et tu as été excellent dans ce domaine. Non, mais Bon, je vais prendre des claques demain, mais c'est pas grave. Non, pas vrai, mais je veux dire, il va râler demain, mais c'est pas grave. Il a été excellent. Parce que dans ce travail-là, il a mis son amour pour Dieu. Il a adoré Dieu dans ce travail d'infographiste. Et on le voit dans ces images. Il a mis son cœur d'adorateur. Nous sommes des êtres d'amour qui construisons une relation vivante, permanente. L'éternel Dieu pense, veut, se réjouit, sent, aime, désire, souffre comme nous. Notre indifférence, notre éloignement, notre silence le fait souffrir. Et combien le Seigneur m'a repris sur cette question-là, qu'il trouvait que je passais pas suffisamment de temps avec lui et que voilà, que je l'attristais. C'est une relation d'amour. Lorsque nous disons que Dieu est amour, il faut arrêter de le visualiser comme un distributeur passif qui distribue ses grâces, ses bontés et son amour, ou tout simplement où nous sommes sous le robinet et on ouvre la bouche. Ce n'est pas cette relation-là que Dieu a avec nous. C'est une relation qui existe, les amis. D'ailleurs, les épîtres en parlent. C'est le comportement d'un bébé auprès du sein de sa mère. C'est utile, un moment. Et il a été ainsi. Mais vous êtes appelés à devenir des adultes et non des bébés spirituels. Et un adulte n'est plus à avoir la bouche ouverte. Enfin, je ne sais pas. Ou alors, c'est qu'il y a un problème dans son développement personnel. Et nous sommes appelés à des adultes. Et cette relation, c'est une relation de partage, d'échange, de communication, de relation, comme je peux avoir avec mon épouse. C'est l'exemple de la relation du mariage. Elle dit, c'est à l'image. Ils disent, le couple, le rapport homme-femme sont à l'image de ce qui se passe dans le ciel et de la relation entre l'Église et Christ. C'est pas seulement pour vous donner des images ou pour dire que le couple est important, c'est de montrer la nature de la relation que nous devons avoir en tant qu'Église avec Dieu. Nous sommes faits à son image. Il a mis les mêmes sentiments qu'il avait en lui. Nous avons des liens de parenté avec lui. Et il souhaite un vis-à-vis amical et amoureux avec nous. Nous sommes faits, nous avons été créés, nous vivrons éternellement pour aimer. Des femmes et des hommes de Dieu au travers des siècles. Et ils sont si nombreux. Et des fois, c'est bien de lire de ces livres de ces hommes qui, peut-être, il y a 200 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 4000 ans, ont tout abandonné pour simplement être avec Dieu. Comme Moïse, ils ont dit, fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas dit, transforme mon peuple, aide mon peuple. Lorsqu'il montait sur la montagne du Sinaï. Il n'aura pas dit que mon peuple soit glorieux, ou il n'a même pas dit fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir la gloire à mon peuple. C'était beaucoup plus égoïste. Moi, Moïse, je veux te voir. Et Dieu s'est découvert à lui. Comme David, et combien nous avons à apprendre et peut-être à changer notre façon de louer. Ils ont déversé un torrent de tristesse, de frustration, de colère, d'amour. Tous ces sentiments à David, il les a exprimés à son père. Il parlait, il n'était pas simplement dans un mécanisme. Témoignait de sa recherche de Dieu et de la joie de l'avoir trouvé. Comme Paul, tous ces hommes et ces femmes ont dit qu'une seule chose, je veux connaître Dieu. Et ce verset qui personnellement m'a beaucoup impacté lors de ma conversion. Philippiens 3, 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin d'être gagné à Christ et d'être trouvé en lui. Amen. Tous ces héros de la foi n'ont eu de cesse de rechercher Dieu, de goûter sa présence, de le toucher avec leur cœur, de le voir avec leurs yeux, de leur âme. Ils ont tous dit, et nous sommes appelés ce matin à nous dire aussi, montre-nous ta gloire. élève mon cœur, ô Dieu, vers un doux mouvement de l'amour. Destine ma prière à toi seul et non à ce que tu donnes. C'est cette attitude d'âme que Dieu honore et aime. Arrêtons de prier pour recevoir, mais simplement pour aimer. Lorsque l'Éternel a partagé le pays de Canaan entre les tribus d'Israël, une tribu n'a rien reçu, n'a pas eu de terre, pas d'arbres, pas de maison, pas de ville. C'était la tribu des Lévites. Pourquoi ? Ils étaient consacrés au service d'adoration de Dieu. L'Éternel leur a dit simplement ceci : je suis ta part, je suis ton héritage. Waouh ! Les Lévites, la part des Lévites, c'était l'héritage. La part de Dieu, c'était Dieu. Mais savez-vous, formule parce que je sais que vous le savez, nous sommes les héritiers des Lévites. Nous sommes ces Lévites aujourd'hui. Nous tous, ici. Notre héritier spirituel, nous sommes les descendants spirituels des Lévites. Nous sommes ce sacerdoce saint, ce sacerdoce royal, ce peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Ma part, c'est Dieu. Mon héritage, c'est Dieu et rien d'autre. Ayant tout abandonné, nous pouvons recevoir Dieu comme un trésor impérissable. Comme cette femme qui a trouvé une perle dans sa maison en rangeant et a tout abandonné. Et le nombre d'enseignements de Jésus sur ce sujet sont immenses. Que se faisons-nous de la perle d'adoration que Dieu nous a donnée ? Pour conclure, ce message est assez court, c'était le but. J'ai une conclusion, une prescription et une prière. Conclusion, deux images que j'avais entendues, mais c'est comme si nous avions l'eau courante et qu'on n'avait pas ouvert le robinet. On pourrait dire plus simplement, à la limite, il y a 2 ans, il fallait faire 10 km pour aller chercher de l'eau. Maintenant, on a l'eau courante. Mais si vous ne prenez pas un bac et vous n'allez pas au milieu du village ouvrir le robinet, il n'y a toujours pas d'eau. On a l'électricité, mais on n'a pas mis l'interrupteur. Je dis ça, c'est pas... J'ai tellement soif qu'on aille plus loin, les amis. Le Seigneur a tellement soif avec nous. Nous attendons à ses bienfaits, à ses bontés, à ses grâces, à sa guérison. Mais Dieu nous appelle avant tout à une relation amoureuse avec lui. Car aimer sans retour... Dans ce monde est devenu si difficile qu'on a une nécessité absolue de se repentir pour dire « Seigneur, je te demande pardon de t'aimer conditionnellement. » Alors j'ai une prescription médicale à vous proposer. Il y a une chose que vous voudriez faire tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, vous allez voir. Je vous propose, c'est de méditer tous les jours ou toute la journée. C'est de méditer sur cette question et puis de simplement dire à Dieu touche-moi, parce que là, vraiment, je comprends que j'ai rien compris. Vous savez, quand on commence à dire que j'ai rien compris, c'est bon signe. C'est quand on dit j'ai tout compris, quand je vais voir des gens qui disent non, mais je sais, j'assiste pas. Ce serait là un travailleur totalement inutile, parce que je sais que tout ce que je dirais ne sert à rien. Donc faisons cette prière et laissons-nous toucher par Dieu. Pour vous aider à faire cette prière, il faut peut-être prendre un exemple sur des gens qui l'ont fait. Et je vous propose, c'est une prescription. Je ne sais pas ce que vous faites avec les prescriptions de votre médecin, si vous les mettez, si vous pensez que vous êtes guéri après l'avoir vu le médecin. Ça marche. Je ne sais pas quelle est votre façon de gérer la médecine. En général, c'est mieux de prendre des médicaments. Ça ne suffit pas d'avoir entendu le médecin. Il vaut mieux prendre des médicaments. Donc la deuxième prescription, c'est de lire un psaume tous les jours. Ce serait bien si tous les jours, hein, un petit psaume, vous les envoyez, un psaume par jour. Puis lire, puis, disant, mais au-delà de lire même ce qui a été lu dans le psaume, demandez à Dieu de vous donner le cœur de celui qui l'a écrit. Parce que c'est intéressant de réfléchir comme ça. Parce que c'est pas, voilà, il a osé dire des choses pareilles, parce que vous verrez, ils disent quand même des choses incroyables. Mais que vous receviez son cœur. Pas seulement que vous le lisiez, mais que vous receviez le cœur de celui qui l'a écrit. Puis j'ai, pour la semaine, j'ai une autre proposition à vous faire. On est à un temps particulier pour Israël, c'est le temps du Yom Kippour. Je crois que c'est mercredi. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça le même jour, mais moi je pense que dans la semaine, ça serait bien que vous preniez un temps pour demander pardon à Dieu. Que nous demandions individuellement. Je ne vous demande pas de faire de grandes réunions, je ne vous demande pas de vous rassembler et de vous taper la poitrine, mais que ça soit dans ce temps, un temps de repentance. Que vous puissiez peut-être prendre un temps de jeûne aussi. Parce que nous avons besoin d'être libérés, y compris du tatamar et de l'aliénation médiatique de ce monde qui nous a tant influencés. Et des fois de jeûner, c'est libérateur. Et puis j'ai une prescription mensuelle maintenant. Oh, c'est vrai. Donc j'en ai pas fini. Mais j'ai reçu ça de la part du Seigneur et je partage. En tout cas, je décide que je le ferai. Si je suis tout seul, je suis tout seul. Ça serait dommage. C'est que le premier jeudi de chaque mois, je vous propose qu'on ait un temps de jeûne collectif. Pas individuel, mais en tout cas, j'ai décidé, je propose qu'une fois par mois, je vous expliquerai, je reviendrai sur ça. Le premier jeudi de chaque mois, un temps de jeûne et de bénédiction. Jeûner pour être libéré de tout ce qui m'entrave et bénir. Bénir ma nation, mon pays et les nations. Bénir ma ville. Entrer dans un temps de bénédiction au nom de jugement et bénir et prier pour mes proches. 3 temps de prière, un jeûne, une fois par mois. Vous voyez, ce n'est pas si violent, mes prescriptions. Mais commençons à faire ces prescriptions. Et vous verrez que le Seigneur va faire des choses incroyables dans notre vie. Je vais terminer par la prière. Vous restez assis, vous êtes pas, je ne vous demande pas de... Vous vous levez, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai juste une petite prière. Puis après, on va chanter, puis c'est la fin du culte et... Merci Seigneur. En tout cas, c'est ma prière. Je vous la partage. Et c'est celle que je fais à Dieu et je la fais, j'ai envie de la faire tous les jours en ce moment. Voilà. Merci. Mes lévites préférés. Non, ils rigolent même pas. J'ai prié. J'ai honte ce matin de ne pas te désirer suffisamment, ô Dieu, trois fois saint. Je veux te vouloir, je veux te vouloir, je veux t'aimer. Je veux être rempli de ce désir de t'aimer. Montre-moi ta gloire afin que je te connaisse. J'en ai assez de t'entendre parler de toi. Je veux te voir, te sentir, te toucher, t'aimer toi seul. Commence en moi ce matin ce merveilleux travail d'amour dans mon cœur, dans mon âme. Donne-moi cette soif de toi. Dis à mon âme, lève-toi et viens avec moi. Donne-moi la grâce de me lever et de te suivre, ô Dieu trois fois saint. Amen. On va prendre un chant. Bonne journée, soyez bénis, que le Seigneur vous porte.